C'est l'heure de la chronique Sport Business au 98.5 et au réseau Cogeco. On accueille Ray Lalonde. Bien le bonsoir, mon cher Ray.
Bonsoir, Mario.
On va revenir sur un dossier qui a beaucoup fait jaser. Je dis pas qu'il y a bien des millions de Québécois qui ont regardé ça, mais veux, veux pas, c'est télévisé à une chaîne publique américaine à tous les ans. Fait que ça fait son chemin jusque dans les salons du Québec, bien souvent. Et la majeure partie des gens ont une idée de ce que c'est que le derby du Kentucky. Mais moi, je veux revenir sur l'aspect business. On fera pas la course. Il y a une disqualification, bien sûr. Maximum Security a été disqualifié. Plusieurs trouvent que finalement, c'était une bonne décision, une courageuse décision, parce qu'effectivement, le cheval a causé de l'obstruction à d'autres bêtes. Mais c'est quoi l'impact financier de cette décision-là? Il y avait combien de paris en jeu? Est-ce qu'il y en a qui... Ça a dû provoquer quelques cauchemars chez des gens qui croyaient avoir gagné une somme importante?
Oui, bien Mario, toutes sortes de dossiers. Là, tu viens d'en nommer plusieurs. Mettons le contexte. Le Kentucky Derby, c'est la plus grande course de chevaux au monde. De pur sang. 150 000 personnes cette année, puis c'est une foule un peu basse à cause de la météo et tout ça. Ça attire jusqu'à 170 000 personnes à Churchill Downs. Le Kentucky, c'est le territoire surnommé le Bluegrass. Bluegrass State, c'est là qu'on forme les meilleurs chevaux de course au monde. Et c'est une pépinière de fanatiques de course de chevaux. Grands événements. D'abord, la première controverse, c'est que Omaha Beach se retire 4-5 jours avant la course. Il était le favori pour l'emporter à une semaine de la course qui a eu lieu samedi soir. Lui s'est retiré pour des raisons de santé. OK, parfait, on passe au suivant. Le suivant, Maximum Security. Favori à 9 contre 2. 9 contre 2, c'est comme 4,5 contre 1. Bon, il était le favori. Il y a eu 10 millions de dollars de gagés pour Maximum Security. Celui qui a remporté la course à cause de la disqualification de Maximum Security, Country House. Favori à 65 contre 1. Alors, il est allé loin le chercher. Mettons les choses dans le contexte. D'abord, la décision de disqualifier Maximum Security, selon moi, était la bonne. C'est juste que ça s'est produit de façon un peu bizarre. D'abord, c'était jamais arrivé dans les 145 ans de la course qu'un cheval se fasse disqualifier au moment même où la course est terminée, 22 minutes après pour être précis. Il y a déjà eu une disqualification en 1969, une ou deux semaines après, à cause de tests anabolisants. OK, mais c'est la première fois qu'on a dû faire une revue vidéo, analyser le résultat, interviewer les jockeys et prendre une décision. Deux jockeys chevaux ont porté plainte après la course. Celui qui était le plus la victime n'a même pas porté plainte lui-même. Mais les vidéos, les films nous démontrent, hors de tout doute, que Maximum Security a quitté son corridor imaginaire parce que là, il pleuvait, il faisait pas trop beau, c'était boiteux. Mario, pas évident, là, c'est pas des pistes d'athlétisme avec des lignes blanches. Alors, tu comprends qu'il y a effectivement, on appelle ça en anglais « drift away ». Il a dérapé un petit peu. Il aurait pu avoir une tragédie gigantesque en termes de santé et sécurité parce qu'une fois qu'un cheval tombe, tu comprends qu'est-ce qui va se passer. Et là, on a souvent affaire à des cas d'euthanasie immédiate. Alors, c'est vraiment triste qu'est-ce qui s'est passé, mais ils ont appliqué le règlement à la lettre sans faire d'enquête, par exemple. Ils ont simplement réagi, c'est-à-dire réagi voulant dire avec les plaintes portées. Ils ont revu, ils ont étudié le dossier pendant 22 minutes et ils ont pris une décision immédiate qui a changé la donne pour les 150 000 personnes qui avaient parié. Le Kentucky Derby, Mario, attire 200 millions de dollars en paris dans le monde entier pour cet événement-là seulement. À peu près 15 à 20 millions sur place à Churchill Downs. Tu comprends que tous ces gens-là ont attendu 22 minutes pour savoir quel allait être le résultat.
Et c'est fascinant, mais dans le fond, est-ce qu'il y en a qui passent pour les méchants dans l'histoire? Est-ce que c'est le cheval disqualifié ou les deux jockeys qui ont porté plainte alors qu'un qui se fait bousculer, lui, ne porte pas plainte? Est-ce que le propos public dit, ben dans le fond, il aurait dû se fermer en boîte puis pas porter plainte ou au contraire?
C'est une bonne question, Mario. Commençons par Donald Trump qui s'est encore mêlé de ça en disant que lui, selon lui, une excellente course. Encore une fois, le cheval qui a gagné Maximum Security aurait dû être le gagnant. On dirait que lui a toujours la mauvaise chose à dire dans une situation pareille. Revenons aux
gardons
choses sérieuses.
Gardons le chaos actif.
Ouais, exactement, exactement. Revenons aux choses sérieuses, Mario. Ils ont fait un appel, Maximum Security. Ça a été rejeté. Alors là, ils s'en vont en justice pour tenter d'amener ça à la cour, pour voir s'il n'y aurait pas une décision d'un juge. Ça risque de prendre un peu de temps, ça va être compliqué. Mais là, ce qui est affecté, Mario, c'est le Preakness. Le 18 mai prochain, le Preakness, c'est la deuxième course de la Triple Couronne. Et là, déjà, Maximum Security ne se présente pas. Alors, tu vois que
les
déjà...
Les deux meilleurs chevaux, donc, ouais, ne courront
exactement,
pas.
Exactement. Alors là, tu vois déjà comment une controverse peut entacher l'image, la réputation que tu as comme événement. C'est gigantesque, le Kentucky Derby. Parmi les événements que j'ai pas vus au monde, celui-ci fait partie de la liste de ceux que je veux voir une fois.
Mais je pensais, je me demandais si tu y étais allé une fois, mais c'est le rendez-vous des bien nantis, là.
Absolument. Oh, oui, oui, oui.
Et ça, Tom Brady était là avec la moitié de sa ligne offensive. La oui, l'aristocratie, ouais,
c'est... Exactement. C'est exactement ce qu'on voit là. Mais ça demeure une tradition de 145 ans, Mario. C'est quelque chose de phénoménal. Ce que j'ai tweeté là-dessus en fin de semaine, c'est le deux minutes le plus rapide et le plus intense dans le sport. Cette course du Kentucky Derby.
Non, c'est vrai
et
que
l'an
c'est
dernier, on avait eu Justify qui avait gagné la triple couronne. Ce qui était absolument émouvant comme moment qu'un cheval gagne la triple couronne. Mais l'an dernier, on a eu un, Justify. Ça commence toujours avec le Kentucky Derby. C'est suivi par le Preakness et ensuite le Belmont Stakes. Alors, tout ça pour dire, Mario, beaucoup d'argent perdu. Beaucoup de gens déçus, mais à la fin, l'application du règlement était la bonne.
Mais là, Country, comment tu l'appelais? Country?
Country House.
Country House, à 60 contre 1, alors ceux qui ont parié sur lui sont les grands gagnants. Faudrait pas qu'on apprenne qu'une enquête révèle que les jockeys qui ont porté plainte ont misé sur Country House, un truc
du
genre.
Exactement.
On sait jamais, là.
De collusion, mais je te rappelle que 10 millions de dollars avaient été misés sur Maximum Security. Et 918 000 $ seulement sur Country House. Donc, c'est normal. Il était favori à 65 pour 1.
Ouais.
C'est une bonne gageuse, tu gagnes. Mais il n'y a pas même une chance qu'il remporte la course.
Non.
Mais il l'a remporté.
Ouais.
À cause qu'il était le deuxième. Quand ils ont disqualifié Maximum Security, ils l'ont mis au 17e rang. Le deuxième devient le gagnant.
Hockey féminin maintenant. On entend peu de choses. Là. C'est le silence total par rapport à ce qui va devenir du hockey féminin professionnel. Tout indique qu'il n'y aura pas de saison de hockey ni dans une ligne ni dans l'autre en 2019. Et là, on apprend que Mme Pegula, conjointe de Terry Pegula, propriétaire notamment des Sabres de Buffalo, elle agissait comme gouverneure propriétaire de l'équipe féminine de Buffalo. Elle remet l'équipe à la Ligue.
Ouais.
Et je veux comprendre la signification de ce geste-là. Le sens-tu comme un appui à la décision des 200 joueuses qui ont décidé de boycotter les ligues au cours de la prochaine année?
Bon, alors d'abord, on se rappelle que le 1er mai dernier, la Canadian Women's Hockey League a mis fin à ses opérations et ça a mis quelques centaines de joueuses hors d'action temporairement. La Ligue canadienne était quand même la ligue la mieux structurée. Elle existait depuis plusieurs années. Et là, soudainement, on parle de manque de capital pour financer la ligue. Parfait. Il reste la National Women's Hockey League, surtout aux États-Unis. Des rumeurs voulant que Toronto et Montréal se joignent à ce groupe-là. Il y avait M. et Mme Pegula dans l'organisation de Buffalo, c'est-à-dire les Bills de Buffalo et les Sabres de Buffalo, mais aussi l'aréna des Sabres et aussi un investissement important à Penn State pour le hockey. Bien, eux, ils étaient propriétaires des Buttes, mais ils l'ont opéré comme gestionnaire. Ça ne coûte pas beaucoup d'argent à opérer cette équipe-là. On parle de moins de 250 000 $ US, Mario. Et là, elle a annoncé subitement qu'elle ne supportait plus la cause de cette équipe-là, mais qu'elle allait tout faire elle-même pour encourager le hockey féminin. Alors, on peut le voir comme étant un appui aux joueuses qui boycottent le temps qu'on s'organise mieux. On peut aussi le voir comme, pour elle, peut-être un abandon de son effort personnel en attendant que quelqu'un bouge ailleurs. Et le quelqu'un qui doit bouger ailleurs, Mario,
c'est la Ligue nationale et Gary Bettman.
Et voilà. Et c'est pour ça que je trouve un peu étonnant.
C'est un drôle de processus, parce que, dans le fond, les 200 joueuses qui ont décidé de boycotter les deux ligues, ben une, parce qu'une a cessé ses activités, l'autre, là, c'est que, eux autres, c'est leur façon de répondre à l'appel de Gary Bettman, qui a dit, si je traduis en mes mots à moi, finalement, nous, on va pas intervenir. Tant qu'il y a des ligues qui existent, on mettra pas notre nez là-dedans. Est-ce que c'est une façon de dire, nous autres, on fera pas un chèque d'une couple de millions à une ligue, finalement, qui va mourir?
Pour les racheter.
Pour racheter la ligue, puis dire, on va repartir ça sur un autre. Non, comme on dit, on rachète, puis on part sur un autre. Non. Lui, il semble pas vouloir faire de chèque à personne. Attend que tout meure du processus actuel.
Processus
qui est à nous priver d'une année de hockey professionnel féminin.
C'est là, Mario, que je trouve qu'on manque le coup complètement. Je veux pas critiquer la Ligue nationale de hockey, mais là, on connaît les ressources d'une ligue professionnelle établie comme la Ligue nationale de hockey. On parle de milliards de dollars. Pour eux, là, d'acheter tout de suite et de trouver une solution immédiate en gestion, en propriétariat, en marketing de cette ligue-là, c'est pas un grand geste, là, pour préserver une saison. Parce que là, t'as 200 filles qui ont dit, nous, on va être solidaires avec les filles qui ont perdu leur job au Canada et on ne joue plus parce qu'on veut une solution favorable, positive. Et acheter une ligue de gens existants, c'est quoi? C'est quel,
ça
qu'est-ce que ça vaut?
Ça ne coûterait pas une fortune.
Mais non, ben Mario, qu'est-ce que ça vaut?
Ça vaut
ligue?
Quoi?
Si chaque équipe en vaut 200, 250 000 en termes d'opérations dans une année, même si tu doublais ça, puis tu leur donnais une valeur, de, une valuation de franchise de 500 000, tu sais, au bout du total, tu aurais peut-être 2 millions à payer. Ce que je veux dire, c'est que Gary Bettman aurait les moyens de régler ça tout d'un coup, d'absorber ces équipes-là, une certaine forme de fusion, nouveau lancement, nouvelle propriété. Les gens qui sont impliqués, qui veulent le rester, pourraient possiblement opérer une équipe ou acheter une équipe, mais à la fin, tu peux pas perdre une saison de hockey féminin à cause de petites chicanes administratives.
Ça va faire mal,
à savoir
ça.
Que tu veux attendre que la Ligue ferme ses portes par elle-même pour repartir à zéro après.
Et s'il fallait que tout tombe à zéro ou revienne à zéro justement avant que la Ligue intervienne. Et si la Ligue n'intervenait pas, là, il y en a qui vont se retrouver gros gens comme devant.
Absolument.
Disant, mais coudonc, on pensait que la Ligue allait faire ça. Puis j'imagine qu'il y a de l'info de coulisses qui se transmet. Je peux pas croire que la Ligue a pas des émissaires qui communiquent avec les principaux.
Absolument. T'as raison.
Les principaux intervenants du hockey féminin, il y a quelque chose qui se trame. Sinon, il y a pas 200 filles qui décident de boycotter ça comme
ben,
ça.
Ben, c'est étonnant, effectivement. Puis en plus, pour certaines d'entre elles, il y en a qui vieillissent, sont pas toujours aussi aptes la saison suivante. Il y a des occupations dans leur carrière professionnelle qui peuvent prendre le dessus, Mario. Ils ont des besoins financiers. Faut qu'ils gagnent leur vie. Alors, quand tu mets tout ça ensemble, faut que tu te poses la question à savoir pourquoi elles le font. Est-ce qu'ils ont déjà un plan B prêt? Pour le moment, c'est un peu mystérieux puis nébuleux.
Une dernière question avant de compléter le bloc sport business ce soir, Ray, et je te le demande carrément. Est-ce que, d'un point de vue affaires, les paris pris par les Raptors de Toronto avec Kawhi Leonard, qu'ils pourraient perdre à l'issue des séries actuelles, et les paris pris par les Blue Jackets de Columbus avec leurs nombreux joueurs autonomes sans compensation, est-ce que, même si les gars devaient tous partir, d'un point de vue affaires, ça peut avoir été un pari intéressant?
Je vais répondre rapidement, Mario. Je vais commencer par les Blue Jackets. À mon avis, dans le sport aujourd'hui, tu dois agir maintenant. C'est sûr que ça ne veut pas dire que tu vas compromettre ton avenir, ton développement, ton dépistage, les jeunes recrues et le fait que tu as des prospects. C'est pas ça que je dis. Ce que je veux dire, c'est que maintenant est le moment pour gagner.
Même si ça te fait saigner les cinq années suivantes?
Oui, parce que tu es supposé être capable de renverser ça. C'est facile pour moi de le dire, mais ce que je peux dire, c'est que on ne vit que dans le moment présent. On peut pas penser qu'on va anticiper que des bonnes choses vont nous arriver parce qu'on a plein de prospects qui attendent derrière. Les Blue Jackets avaient une chance, un, de faire les séries. Ils l'ont fait. Plus d'argent. Deux, de gagner la première fois une série pour la première fois de leur histoire. Ils l'ont fait. Alors, moi, je considère les Blue Jackets aujourd'hui comme étant excessivement plus populaires et plus solides dans la région de Columbus à cause de leur performance. D'aller en 6 contre Boston et perdre, c'est très prometteur.
Même s'ils devaient perdre leurs 4 joueurs autonomes?
Oui. Même s'ils devaient perdre les 4 joueurs autonomes. Premièrement, les 2 joueurs autonomes les plus connus, Bobrovsky et Panarin, ont eu d'excellentes saisons parce qu'ils savent qu'ils jouent leur contrat d'avenir. Ils vont être en demande. Mais les Blue Jackets ont une équipe assez bien soudée, on l'a vu, et c'est pas impossible qu'ils re-signent. À un moment donné, Mario, il faut que tu prennes des risques et il faut que tu gagnes là.
Alors, et pour Kawhi Leonard, est-ce que ta lecture est la même pour les Raptors de Toronto?
Absolument. Parce que déjà, ils sont à un match de la finale de l'Est. Ils mènent 3-2 contre Philadelphie. Leonard domine. Sa valeur marchande continue d'augmenter. Je te donne un chiffre. Si Leonard reste avec les Raptors, il est éligible à un contrat max, pas super max, mais max, 5 ans, 190 millions. Pas pire. Mais s'il quitte les Raptors, 4 ans max, 141 millions. Kawhi Leonard le sait lui-même que de quitter les Raptors pour aller rejoindre LeBron James ou les Clippers à Los Angeles, ça va y coûter 50 millions immédiatement. Les Raptors savaient tout ça. Leonard se plaît à Toronto. L'entraîneur fait un bon travail de le guider et d'y aller doucement. Il livre le produit tel qu'on l'avait dit. Et les Raptors sont à un match de la finale de l'Est.
Eh bien, sur ce, Ray, un gros merci. Excellente chronique. On peut t'écouter sur SoundCloud, YouTube et te suivre sur Twitter, bien sûr, avec tes chroniques Focus. À bientôt, mon ami.
Merci, Mario.
Dans un instant, Martin Bédard des Alouettes de Montréal. Et on met la table pour le match de l'Impact ce soir également ensuite.